Côté santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Vous le savez, nous sommes cette semaine à Montpellier pour la 7e conférence internationale francophone sur le VIH et les hépatites, AFRAVI. Hier, nous avons parlé de la prise en charge du sida chez les enfants et je vous propose aujourd'hui de nous intéresser aux hépatites B et C, des maladies qui peuvent évoluer vers la cirrhose et le cancer du foie. 350 millions de personnes sont infectées par le virus de l'hépatite B dans le monde. Pour l'hépatite C, c'est 170 millions. En ce qui concerne l'hépatite B, il existe un vaccin et des traitements, souvent à vie. Pour l'hépatite C, c'est l'inverse, pas de vaccin, mais une révolution cette année avec l'arrivée de nouvelles thérapeutiques qui vont permettre de guérir plus de 90% des patients. Cependant, ces traitements sont chers, très chers, les rendant difficilement accessibles dans les pays en développement, à peu près 56 000 euros en France, 80 000 dollars aux États-Unis. Alors comment les rendre abordables? C'est une des questions abordées pendant cette conférence. Comment lutter contre la propagation d'épidémies d'hépatite B et C? Je vous présente mes invités. Ils sont 6 autour de cette table. Le professeur Georges-Philippe Pajot, qui est hépato-gastro-entérologue au CHU de Montpellier, le docteur Maud Lemoine, hépatologue à l'Imperial College de Londres, le professeur Marou Melfilali, qui est chef du service des maladies infectieuses au CHU Inbrook de Casablanca au Maroc, le docteur Moussa Sedi, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Fan à Dakar au Sénégal, le professeur Alain Attia, qui est hépato-gastro-entérologue au CHU de Yopougon à Abidjan en Côte d'Ivoire, et le professeur Christine Katlama, qui est présidente de la FAVI, professeur de maladies infectieuses à la pitié. Un téléphone si vous avez envie de participer, le 33 1 84 22 75 deux fois. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va principalement parler des hépatites, mais j'aimerais donner d'abord la parole au professeur Christine Katlama, qui préside justement à AFRAVI, cette conférence. Professeur Christine Katlama, vous êtes déjà intervenue plusieurs fois dans Priorité Santé, on vous connaît. Quel est l'intérêt d'une conférence comme celle-là, d'une conférence francophone ?
Alors, une conférence francophone, l'intérêt, c'est d'y parler français.
C'est pratique. Alors, pour nous dans Priorité Santé.
C'est extrêmement important. Donc, voilà, on est un peu plus de 1200 ici à parler français. On est tous intéressés par trois virus, le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C. On a des priorités communes, des priorités de dépistage, d'accès au traitement. On a des traitements révolutionnaires, vous l'avez dit, dans l'hépatite C. On a des choses à faire avancer, des lignes à faire avancer énormément dans l'hépatite B. Vous allez en parler avec vos invités, et aussi dans le VIH. Il faut arriver maintenant dans une ère très nouvelle. Il faut que les progrès avancent. Et en francophonie, eh bien, c'est extrêmement important autour de cette conférence de parler de science, de parler de clinique, de parler de droits de l'homme, de parler d'accès. Toutes les plateformes sont ici.
L'UNITED. Et il en sort quoi de concret?
Eh bien, il en ressort. Exactement. Il en ressort que, au lieu des belles déclarations, les gens interagissent dans un endroit très joli à Montpellier, mais petit, resserré, on l'a un peu tassé, et ça permet les vrais échanges, et c'est pas les téléconférences, c'est pas les visioconférences, et c'est pas les mails. Et donc là, on ne peut pas, on doit faire avancer les choses. C'est pour ça que ce
format... En fait, vous vous réunissez entre gens, vous êtes habitués à travailler ensemble.
Oui, mais on se connaît pas forcément. Hier, il y avait, ah, c'est vous. Bon, pas moi, là, ils m'ont pas mal vu, là, mais les autres. Ah, mais on se connaissait que par mail. Donc vous voyez, à l'ère de la technologie qu'on adore, c'est extrêmement important que de pouvoir prendre un café, que de pouvoir écouter les choses ensemble. Et on a un programme extrêmement divers avec le ton de la francophonie. C'est-à-dire un ton un peu rebelle qui plaît bien à nos Genevois qui sont là, ONU-SIDA, UNITED, OMS, etc., et qui se sont déjà inscrits pour dans 2 ans. On a aussi à l'honneur, aussi, c'est extrêmement important, les pays francophones d'Afrique du Nord, parce qu'il y a des gros enjeux là-bas. Et il est important que nos collègues, un est déjà autour de la table,
du Maroc,
mais de l'Algérie, qu'on fasse bouger les lignes, car il y a encore trop de retard, alors que la compétence est là, que les
justement,
choses
Christine, une dernière question par rapport à cette question de la francophonie. Est-ce que, finalement, l'Afrique francophone n'est pas un peu plus en retard ou avance moins vite sur toutes ces questions-là que l'Afrique anglophone, ou c'est un mythe de dire ça?
Alors, on a eu un excellent... conférence ce matin par le professeur Serge Eolieu, j'espère qu'il aura l'occasion de vous raconter, qu'il nous a fait une magnifique démonstration. Oui, l'Afrique francophone est un peu en retard, parce que dans un système de valeurs aussi quand même anglophone, hein, de publication, de plein de choses, elle a moins d'argent, elle est moins nombreuse, elle a moins d'argent, et elle a plein de qualités, ils font bien, mais ils font pas assez. Donc on va dire comme
et
ça.
Et c'est là. Quoi? C'est dû au manque d'argent, ou est-ce que c'est dû aussi à un problème d'organisation?
C'est dû à... Comme ça, je vais vous dire. C'est dû à un problème c'est dû au problème latent. C'est un problème d'organisation. C'est un problème d'aller en avant. Quand on fait bien. Mais, voilà. Dans les, c'est pareil en France. Les appels à projets internationaux, il n'y a pas beaucoup. Bon, docteur Maud Lemoine s'y est collé. Mais il n'y a pas beaucoup de, gens qui, font ça. Peut-être on est un peu gâtés. Peut-être on attend que ça vienne, etc. Et qu'on n'a pas à, à chercher notre
Et donc cette vitance. Conférence, c'est ça? C'est un peu essayer de rattraper le retard aussi dans ces cas-là.
Oui, c'est aussi rattraper le retard, c'est sans concession, c'est on a eu aussi le plaisir d'avoir des collègues américains qui nous ont fait des topos en français, plaît-il, avec des diapos en français, c'est aussi bien de rétablir. Et les mêmes que j'ai vus il y a 15 jours à Vancouver, là, me parlent en français, donc je ne savais pas, j'étais très heureuse. Voilà. Alors, on n'est pas contre l'anglophonie, je le dis tout simplement, le monde n'est pas juste monolithique, et c'est extrêmement important que tous les gens qui travaillent sur le terrain ici, dans tous leurs domaines, puissent s'échanger et discuter en français.
Merci, professeur Christine Catlama. Si vous voulez bien, maintenant, on va parler des hépatites. Je voudrais qu'on revienne sur la question de la fréquence. Docteur Moussa Sedi, quelle est la fréquence au Sénégal des hépatites B et C? Est-ce que vous avez des chiffres?
Oui, nous avons des chiffres plus facilement pour l'hépatite B. La prévalence de l'hépatite B est élevée. Dans toutes les études, elle est supérieure à 8%. Une étude qui a été faite même chez le personnel médical montre que la prévalence est aux environs de 17%. Et chez les co-infectés VIH, VHB, ceux qui sont infectés par les deux virus, la prévalence de l'hépatite B est
et
aussi
pour la C?
17%. Pour la C, la prévalence est plus faible. Mais il faut reconnaître que la prévalence est basée sur la recherche des anticorps anti-hépatite virale C. Donc, ça prouve le nombre de personnes qui ont été en contact avec le virus de l'hépatite C. Donc, dans la population générale, la prévalence de ces anticorps est de 0,25%. Mais il est évident qu'il y a des groupes chez lesquels cette prévalence est plus élevée. Par exemple, chez les usagers de drogue intraveineuse, ceux qui s'injectent de la drogue par voie intraveineuse, une étude récente a montré que 39% de ces usagers étaient en contact avec le virus de l'hépatite C.
Professeur Alain Attia, qu'en est-il en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'était des chiffres à peu près équivalents?
Oui, les résultats sont à peu près superposables. Pour ce qui est du virus de l'hépatite B, la prévalence varie entre 8 et 15 %. On n'a pas de données véritablement nationales. Une donnée ancienne fait état de 9 %. Et les sujets qui ont été en contact avec le virus de l'hépatite B sont très, très, très nombreux, 60 à 70% de la population. Et pour ce qui est de l'hépatite C, par contre, contrairement au Sénégal, la prévalence aussi entre 1 et 4% en Côte d'Ivoire.
Donc un peu plus, a priori, un peu plus élevé. Qu'en est-il au Maroc, professeur Maroum El-Filali?
Tout d'abord, merci de nous donner cette opportunité pour un petit peu partager les chiffres, mais également nos besoins. Et je dirais que au Maroc également, nous avons des problèmes de chiffres. C'est-à-dire que nous avons des études, mais c'est des études éparses, avec une méthodologie qui n'est peut-être pas toujours la même dans les différentes études. Mais là, avec une étude qui est relativement récente, donc publiée en 2013, j'ai retenu le chiffre de 1,81% pour l'hépatite B, et 1,58% pour l'hépatite C, ceci dans la population générale. Lorsqu'on s'arrête uniquement sur les donneurs de sang, les chiffres sont beaucoup plus bas, bien sûr, parce qu'il y a une sélection des donneurs. Et je reviendrai également sur le même problème, les usagers de drogue par voie intraveineuse. Nous aussi, dans une étude au nord du Maroc, nous avons trouvé un pourcentage de 13,6%.
Docteur Maud Lemoine, vous aviez envie de réagir. Et moi, surtout, je vois une différence quand même par rapport à l'hépatite B, où une fréquence apparemment beaucoup plus importante en Afrique subsaharienne qu'en Afrique du Nord, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, les données de l'OMS concordent pour une prévalence très élevée, donc plutôt en Afrique subsaharienne, supérieure à 8%. On estime qu'il y a à peu près 60 millions d'individus qui sont infectés par le virus de l'hépatite B. Il est vrai que la majeure partie des études ont été menées dans des populations sélectionnées, qui sont généralement des donneurs de sang. Mais juste pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment, on mène actuellement en Afrique de l'Ouest, donc au Sénégal et en Gambie, un vaste projet à l'échelle communautaire, donc qui s'appelle Prolifica. Et de façon assez alarmante, on confirme qu'à l'échelle communautaire, c'est-à-dire en allant dépister dans les villages, n'importe qui, n'importe quel adulte, eh bien la prévalence est confirmée aux alentours de 10%, ce qui sont des chiffres assez inquiétants. Pour l'hépatite C...
D'où l'importance quand même de mener des études pour avoir des chiffres exacts.
Voilà, on a besoin d'études, et pour mener des études, eh bien, il faut mobiliser les acteurs publics, mais ça, je pense qu'on en reparlera.
C'est ce qu'Ethlama a dit tout à l'heure.
On en reparlera tout à l'heure, et c'est aussi l'objectif de cette conférence. Il faut des financements, il faut des études de qualité et des outils de dépistage de qualité.
Professeur Pajot.
Oui, juste un mot pour la situation finalement en France. D'abord pour dire qu'on a les mêmes inconvénients épidémiologiques puisque les dernières études qui ont été faites en France datent de 2004, elles ont 10 ans.
Et pour illustrer... Étonnant pour un pays riche.
Tout à fait. Et pour illustrer ce déséquilibre nord-sud, puisque je pense qu'on va beaucoup parler de ça pendant l'émission aujourd'hui, en termes de fréquence, l'hépatite B, l'antigène HBS en tout cas, c'est un peu plus de 0,6%. L'hépatite C, un peu plus de 0,8%. Donc on peut tout à fait reprendre ce slogan, les malades sont vraiment plus au sud qu'au nord, et on va voir malheureusement au cours de l'émission que ce sont les patients du nord qui bénéficient des traitements les plus efficaces.
Et on va y revenir dans cette émission.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous sommes en direct de la 7e conférence internationale francophone sur le VIH et les hépatites qui se déroule à Montpellier. Aujourd'hui, justement, on a décidé de parler plus précisément des hépatites. J'aimerais bien qu'on parle du mode de transmission. Je ne sais pas qui veut répondre à la question, professeur Pajot. Quels sont les modes de transmission de l'hépatite B et C? Il y a une présentation hier à Afravi qui m'a étonnée, qui parlait d'une étude menée au Cameroun sur les personnels soignants. Et en gros, il y avait 80% de mauvaises réponses sur les modes de transmission des hépatites dans le personnel soignant au Cameroun.
Alors je vous rassure tout de suite, si la même étude était faite en France, on aurait des résultats assez semblables. Ça veut dire que...
Non, ça ne me rassure pas du tout.
En tout cas, ça rassure les collègues du Sud. Moi, je pense que pour présenter les choses de façon très simple, l'hépatite B, c'est une maladie sexuellement transmissible. Et c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut insister lorsqu'on va parler tout à l'heure de prévention et d'identifier des populations les plus à risque d'être contaminées. Étant entendu que pour cette hépatite également, il y a ce qu'on appelle la transmission parentérale par le sang. Donc voilà, transmission sexuelle, transmission sanguine. Pour l'hépatite C, on va inverser.
Donc transmission mère-enfant.
Et donc transmission mère-enfant, d'autant plus grave. Le docteur Lemoine a travaillé sur cela, que lorsque l'enfant est contaminé et qu'il n'y a pas eu la bonne prévention, dans l'immense majorité des cas, il va développer une maladie chronique du foie. Pour l'hépatite C, les choses sont un peu inversées. C'est d'abord une maladie par transmission sanguine. C'est donc une maladie qui est liée à des transfusions avec des produits sanguins qui n'ont pas été décontaminés. Mais c'est aussi les usagers de drogue, par voie intraveineuse, mais on oublie souvent de le dire également par voie intranasale, puisqu'il y a des petites plaies au niveau de la paroi nasale qui font que la contamination sera sanguine. Et puis il y a quelque chose qui émerge au cours des dernières années, c'est la contamination sexuelle. Elle est ciblée. Elle est essentiellement rencontrée chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. En d'autres termes, ce type de rapport est potentiellement extrêmement infectant pour le virus de l'hépatite C. Et ça devient une problématique majeure, a fortiori s'ils sont co-infectés par le virus VIH.
Donc on comprend bien, c'est pas si simple hein, quand même de bien comprendre les différents modes de transmission entre ces deux maladies. Je voudrais qu'on parle maintenant, on va parler et de l'hépatite B et de l'hépatite C, mais on démarre avec l'hépatite C. Vous vouliez réagir là, vous avez raison, allez-y.
Juste pour dire Moussa Sédi du Sénégal. On ne peut pas considérer l'Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal, que le mode de transmission sexuelle est le plus fréquent. Ce n'est pas tout à fait exact pour l'Afrique.
Pour l'hépatite B.
Pour l'hépatite B.
C'est mère-enfant.
C'est mère-enfant.
Mère-enfant est horizontal. D'ailleurs, l'étude.
Mais horizontal comment? Horizontal.
Horizontal. Entre sujets contaminés.
Qui ont un contact étroit. C'est pour ça que dans une même famille, quand vous avez un patient qui est antigène HBS positif, vous testez le reste de la famille, vous avez toutes les chances de trouver d'autres personnes qui sont infectées.
Donc, ce n'est pas que sexuel, mais quand on dit étroit, on dit quoi? Parce que ça, les auditeurs, ils entendent ça, ils se disent, mais du coup, quel est le risque de contamination que j'ai en vivant à côté de quelqu'un qui a une hépatite B?
Très bonne question.
Ah, mais ça, c'est la question des auditeurs.
Voilà,
ils sont
très bonne question. On peut donner quelques exemples que nous pouvons imaginer. Par exemple, entre enfants, c'est surtout entre enfants qu'on a vu ce mode de transmission. Parce qu'une étude menée a montré que des enfants naissaient non infectés, au bout de 3-4 ans, ils étaient infectés.
Donc, ils n'avaient pas eu de relation sexuelle.
Pas de relation sexuelle.
Attendez, oui, finissez et après je vous donne la parole.
Voilà. On peut donner un exemple. Quand un enfant prend une mangue, qu'il mange sa mangue, il a une gingivite, ça saigne. Il passe la mangue à un autre enfant qui fait la même chose, par exemple. Ou bien des singes de cure-dents, d'objets déjà qui ont été souillés par le sang d'un patient qui a été infecté. Donc, ça, ce sont des modes de transmission qu'on dit horizontal, mais quelque part, ça rejoint un
tout
peu...
Tout le monde veut réagir. Alors, je vois que la question du mode de transmission est importante. Alors, Tia, puis après, Maud Lemoine.
Oui, effectivement, en Afrique subsaharienne, c'est vraiment surtout la transmission horizontale intrafamiliale, partage des objets, promiscuité. Il y a une étude ghanéenne qui a été réalisée qui montre bien que les escoriations, enfin, les morsures, l'utilisation de brosses à dents, enfin, tout ça peut être des facteurs de contamination extrêmement importants. Et la transmission verticale mère-enfant n'est pas négligeable.
Maud Lemoine ?
Non, juste pour ne pas complètement affoler les auditeurs, cette transmission qu'on appelle horizontale qui survient dans l'enfance, donc en général avant 5 ans, elle s'explique aussi par le fait que à cet âge, la charge virale, la quantité de virus dans le sang est extrêmement élevée. Les mères sont souvent des mères jeunes en Afrique subsaharienne, elles sont infectées par un virus qui est très répliquant. Donc juste pour un peu nuancer le discours, il ne s'agit pas d'être en panique dès lors qu'on partage sa brosse à dents avec un patient qui est infecté par le virus de l'hépatite B.
C'est ça, mais moi je voudrais quand même juste bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu du sang et en fait le virus il vit longtemps à l'air libre, c'est ça ? Peut-être plus que celui du sida,
oui,
par
beaucoup
exemple ?
Plus que celui du VIH. Ça. Alors on n'a pas non plus élucidé tous les modes de transmission horizontaux, mais très clairement en Afrique subsaharienne, on ne peut pas parler de transmission sexuelle. C'est pas vrai, c'est une transmission sexuelle au nord mais pas au sud, c'est dans l'enfance.
Tout à fait. Je voudrais qu'on revienne maintenant à l'hépatite C et qu'on parle de l'arrivée de ce nouveau traitement. Professeur Pajot, vous avez justement, au cours de cette conférence, parlé de ce nouveau traitement. Qu'en est-il ? Il est vraiment révolutionnaire, apparemment. C'est une avancée assez incroyable.
Alors oui, il faut en parler au pluriel. Ce sont des nouveaux traitements. L'hépatite C, c'est une maladie assez récente. Hein. Elle a moins de 30 ans. C'est 1989, là, finalement, la détermination et la découverte de ce virus. On peut donner des chiffres assez simples. Dans les années 90, où on utilisait un médicament qui s'appelle l'interféron, on l'utilisait tout seul, on guérissait à peine 10% des gens. Ensuite, on a amélioré la forme de cet interféron en donnant des injections par voie retard, en ajoutant un médicament qui s'appelle la ribavirine, on est passé aux alentours de 40%. Et puis, il y a 4-5 ans, arrivé de ce qu'on a appelé des antiprotéases, les hépatologues se sont beaucoup inspirés de ce qu'avaient fait les infectiologues pour le VIH. On est monté à 70%. Et maintenant...
Avec plein d'effets secondaires. Hein,
avec plein d'effets secondaires, je vais y revenir. Et maintenant, en termes d'efficacité, il est vrai que nous allons arriver à ce seuil extraordinaire de 90%. Donc, on a vraiment devant nous des espoirs certains de guérison quasi universelle. Ceci étant dit... Toute l'histoire du traitement de l'hépatite C, c'est autant l'efficacité que les effets secondaires. Et c'est de mon point de vue là qu'est la deuxième révolution et peut-être la plus importante, c'est qu'on va avoir des traitements avec extrêmement peu d'effets secondaires, alors que ces effets secondaires empêchaient finalement la diffusion de ces traitements. Donc la révolution, elle est double. C'est une révolution en termes d'efficacité et c'est une révolution en termes de tolérance et de moindres effets secondaires.
Et de durée du traitement, beaucoup, beaucoup plus court.
Et de durée, vous avez raison de le souligner, on est passé de durée moyenne qui était de 6 à 12 mois à des durées maintenant qui vont être essentiellement de 3 mois et peut-être même, on a récemment vu des communications de 2 mois. Donc, bien entendu, des progrès assez extraordinaires. Et puis, la forme galénique, c'est-à-dire la manière dont on a administré le médicament, où nous nous acheminons vers des traitements uniquement par comprimé. Il n'y aura plus d'injection et donc plus d'inconfort pour le patient.
Beaucoup plus simple. Pour l'instant, les essais thérapeutiques ont été menés plutôt dans les pays occidentaux. Est-ce qu'on a déjà vu un peu ce que ça pouvait donner dans les pays en développement ou pas ?
Alors, on commence à en voir. Alors, il y a toujours quelque chose qui... Je parle toujours de cette étude. L'Égypte, beaucoup d'entre nous, on le sait, est un pays qui a eu un mode de contamination particulier par un génotype, un type de virus de l'hépatite C qui s'appelle le type 4. Et donc aujourd'hui,
et du coup, avec un pourcentage de patients
avec
de
des millions de personnes infectées par le virus de l'hépatite C de type 4. Et on a vu arriver des études récentes sur le traitement des patients de type 4 et de façon délicate, on va dire. On traitait des patients d'origine égyptienne, mais qui vivaient aux États-Unis. Donc toujours cette propension du Nord à attirer vers lui les traitements. On n'est pas allé les traiter en Égypte, on les a traités parce qu'ils habitaient à Los Angeles. Donc ça, c'est quand même une illustration pour moi assez claire du déséquilibre. Toujours est-il que ça marche très bien, et que donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison de penser, aucun argument pour penser que ces traitements efficaces pour les patients du Nord le seraient moins pour les patients du Sud, ils le seront autant.
Et on va se retrouver dans 3 minutes, hein, juste après les informations, on va reparler de ce traitement, surtout du coût du traitement très élevé pour les pays occidentaux, mais probablement assez inabordable pour les pays du Sud. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations.